Quand je vois arriver ces textes-là qu'on vient de lire, je me dis à chaque fois, comment que je vais tourner ça pour que ça ait de l'allure? C'est pas évident. Même si on le lit un peu 3, 4 fois, 5, 6 fois, on trouve qu'il y a des textes des fois qui sont plus difficiles que d'autres à commenter. En tout cas, je vais m'asseoir une autre fois. Lorsque les Grecs ont conquis tout le Moyen-Orient dans les années à peu près 320-325 avant Jésus-Christ, c'est Alexandre le Grand, les Grecs, à un moment donné, là, ils ont balayé tout ça, puis ils ont conquis tous les peuples autour. L'Égypte, la Syrie d'aujourd'hui, en tout cas, il y a tout un espace. Puis, nécessairement, Israël, qui était un petit pays. Alors, quand les Grecs ont conquis tout le Moyen-Orient dans les années 325, ils ont fait subir de grandes persécutions à tous ces peuples d'alentour. Le peuple juif a alors subi de grandes agressions. On voulait les contraindre à adopter les dieux grecs et à suivre les traditions grecques. Par exemple, on obligeait les Juifs à manger de la viande de porc, ce qui était pour eux une viande interdite, et on les forçait à respecter les coutumes et les habitudes grecques. Alors, les Grecs étaient très sévères à ce niveau-là. Ils voulaient fonder un empire grec, que ça parle grec d'un bout à l'autre de cet empire-là, que les coutumes, les façons de faire soient adoptées par tout le monde. Ils ne voulaient pas avoir 3, 4 petits pays, un là, qui parlent telle langue, tout ça. Ils voulaient avoir une uniformité. Là. Ça ressemble un peu à des idées qu'on a aujourd'hui, vous savez. On a même des gens qui disent, ah, on devrait être tous pareils. On devrait tous suivre la même chose. Pensez, par exemple, au problème avec l'immigration. Ah, on devrait adopter rien que ceux qui parlent français, ceux qui savent travailler. Puis là, on en met des « il faudrait que ». Alors, c'est toujours des choses qui reviennent. Le récit des frères Maccabées. Ah, ça, c'est grave. C'est grave. Avec le récit du martyr des 7 frères Maccabées et de leur mère, là, on est vers les années 160 avant Jésus-Christ. Nous assistons à des scènes épouvantables. On a eu quelques idées là, dans la lecture. Un vrai film d'horreur. Au-delà des sévices corporels, au-delà des tortures effrayantes, nous retrouvons la foi de ces gens qui sont convaincus que la résurrection les attend dans l'autre monde. Et regardez qu'est-ce qu'un des frères Maccabées, avant de mourir, dit. Oui, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Déjà là, avant Jésus-Christ, il y a des gens qui croyaient qu'on ressuscitait, qu'on ressusciterait. Et ces gens-là meurent pour être fidèles à leur roi. Puis ils disent au roi puis aux Grecs qui sont en train de les martyriser, ils leur disent, nous autres, on va avoir la résurrection des morts. On va ressusciter. Alors, c'est le projet que ces gens-là avaient. La mère aussi, avec ses 7 enfants. Et elle nous livre aussi un témoignage d'espérance. C'est l'un des très beaux textes de l'Ancien Testament qui nous confirme que nous sommes appelés à la résurrection. C'est des textes inspirés, comme je disais tout à l'heure au début de la messe. Ben, c'est des textes qui nous posent question, nous autres aussi. On croit en la résurrection de la chair à la vie éternelle, comme on va le réciter tout à l'heure dans le credo. On croit à ça. C'est notre espérance. C'est plus fort que nous autres, c'est mystérieux, c'est difficile à exprimer, mais comme chrétiens, puis Jésus va nous le montrer aussi dans l'Évangile, comme chrétiens, ben, on croit à la résurrection des morts. Nos défunts continuent à nous influencer. Quand on en parle, on ne parle pas comme des gens qui sont morts, même s'ils sont 6 pieds sous terre. Non, notre foi nous dit, au-delà de notre vie terrestre, il y a une autre vie, une vie éternelle. Et ça, Jésus a été clair là-dessus, on n'a pas à douter de ça. Dans l'Évangile, maintenant, le scénario est très différent. Nous assistons à des mortalités arrivée en Syrie. Voici la situation. Les Sadducéens, dans le temps de Jésus, il y avait deux grandes branches au niveau religieux. Les Sadducéens, puis les pharisiens. Puis ils s'entendaient pas bien là entre eux autres. Il y en a un qui disait, toi, ça, tu crois ça, moi, je crois pas ça, pas tout, puis tout ça. La chicane poignait souvent. Alors les Sadducéens, eux autres, c'était, il n'y a pas de résurrection. Puis les pharisiens, ils disaient, là, oui, il y a une résurrection. Alors, ils ont été lire dans la Bible, là, dans l'Ancien Testament, puis il y en a un qui dit, la loi du Lévira. C'est un drôle de nom, là, mais la loi du Lévira, elle obligeait quelqu'un, une femme, par exemple, qui mariait un homme, puis que l'homme est mort avant qu'elle ait pu avoir d'enfant, bien là, il disait à un des frères du premier homme, il faut que tu maries. Ben là, c'est la loi du Lévira. Alors, il fallait toujours qu'il en marie un autre si elle mourait sans enfant. Alors, je vais vous lire ça pour mal de mot à mot, là. Les Sadducéens, contrairement aux pharisiens, prétendaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Ils ont voulu tendre un piège à Jésus. La loi du Lévira, proclamée par Moïse lui-même, obligeait un homme marié, dont le frère mourait sans enfant, à épouser sa veuve pour donner une descendance à son frère. Car un homme sans progéniture était considéré comme une malédiction. Or, il y avait sept frères. On avait sept frères Maccabées, on a sept frères ici aussi. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis même le troisième, épousèrent la veuve et ainsi tous les sept. Elle était forte, la veuve. Elle ne donna pas sa place. Ils moururent tous sans laisser d'enfant. Finalement, la femme, la veuve, qui est devenue veuve 3-4 fois, la femme mourut aussi. Hey, moi, je prends ça pour moi, là. Dans ma famille, on était 10, là. Auriez-vous vu la fête? Nous autres, à 7, on commençait à trouver ça exagéré, mais nous autres, on était 10, là. Il aurait fallu en faire des mariages, hein? Alors, où je suis rendu? Ça va venir. Pour ma part, ça aurait été dramatique. Nous étions 10 garçons et moi j'étais le 10e. M'auriez-vous vu devoir épouser la veuve de mon dernier frère? C'est comme si la première cause de mortalité était le mariage. J'ai opté pour le célibat en devenant prêtre. Je n'avais pas le goût de plonger ma famille dans un drame aussi épouvantable. Alors, vous allez me dire, pourquoi qu'il nous donne ça, ces textes-là, un matin? Bien, c'est parce que, justement, les Sadducéens, eux autres, ils voulaient tendre un piège. Ils ont mis une situation un peu drôle, un peu loufoque. Puis, les pharisiens, eux autres, ils voyaient bien qu'ils disaient toujours, hey, c'est la loi de Moïse, c'est la loi du Lévira. Cette femme-là est morte sans enfant, il faut que tu la maries parce que, en tout cas, vous avez vu le scénario, là. Alors, la situation s'améliore un peu dans la deuxième partie de l'Évangile, où Jésus répond aux Sadducéens. Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas. Et regardez la phrase. Moi, c'est cette phrase-là que je trouve la plus belle de tout ce scénario qu'on vient de lire. Ils ne se marient pas. Quand on est mort, on ne se remarie pas. Car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont donc semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. Alors, ça m'a soulagé un peu. J'ai des chances d'être un ange. Je n'avais pas prévu ça de même. En tout cas, devenir un ange, ça peut être un vieux rêve pour bien du monde. Soyons réalistes. Pour devenir un ange, pour ressusciter, il nous faut d'abord passer par la mort. C'est le seul chemin qui mène à une gloire éternelle. Et dans le credo, nous l'affirmons haut et fort, je crois en la résurrection de la chair. La petite graine d'éternité déposée en nous par le baptême, lors de notre baptême, va produire les plus belles fleurs d'éternité. Personnellement, je n'accepterai jamais qu'on me traite après ma mort comme une poussière insignifiante. Je suis assuré que Dieu prendra soin de moi, me guérira, me ressuscitera. Et je me base sur sa promesse. Et je sais qu'il tient sa parole. Il est fidèle, ce Sauveur, qui nous a promis de nous soutenir jusqu'à la résurrection, au terme du grand voyage. Alors, la résurrection, moi, je suis sur le bord des pharisiens. Je suis sûr qu'il y a une résurrection. On le dit dans notre credo, comme je disais tout à l'heure. Et on vit avec cette espérance qu'au-delà de la mort, il n'y a pas un trou, il n'y a pas une voie sans issue, comme on dit, mais que c'est vers ça qu'on s'en va tout le monde, inévitablement, un jour. Alors, exprimons ensemble tout à l'heure dans le credo notre foi. Puis, je vous souhaite d'avoir beaucoup d'espérance dans vos vies, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.